C'est de nouveau la question de Noé qui va se reposer.
Qu'est-ce qu'on fait dans des pays où il y a des gens qui ne pensent pas comme nous? Qu'est-ce que ça donne? On va arriver justement à Sodome, il va y avoir des bagarres entre les rois. Et puis il y a l'étranger, celui qui parle une autre langue, ici qui est symbolisé par l'Égypte. Et l'Égypte va revenir deux ou trois fois. Et elle reviendra évidemment avec
l'épopée de Joseph, et puis elle
reviendra avec l'épopée d'Israël, qui va devenir nomade également. Joseph est un nomade, le peuple d'Israël est un nomade,
Saint Paul va devenir un nomade,
Jésus va nomadiser,
il va pas se fixer quelque part. Saint François Xavier va devenir un nomade, Saint François de Sales va devenir un nomade, et ces gens qui nomadisent pour dire quelque chose à des gens installés. Et c'est intéressant de voir ce long cheminement de l'itinéraire spirituel, c'est jamais pour soi qu'on marche, c'est pour les autres. Marcher. Et tout ce qu'on voit d'abord, c'est une marche. Et une marche qui est déjà une marche ensemble. Il y a un petit groupe, une petite communauté. Et bon, on prend quand même quelques valises avec soi. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, on cheminait avec des chameaux. Hein. Les chameaux n'avaient pas encore été domestiqués. Après, Abraham avait-il des chameaux? Il y a des articles qui ont été composés sur le sujet, mais les chameaux sont venus un peu après. Avec des ânes, oui. C'est déjà une domestication. Il y avait une famine de l'âne sauvage. Hein. Et il y a une famine. Dieu avait donné à manger. Il a dit manger. Puis on a vu que le sol n'était plus fertile. Maintenant, il est très peu fertile, une famine. C'est drôle, hein, la stérilité du sol. On va vous parler de la stérilité de la femme, mais on commence par parler de la stérilité du sol. Il y a toujours une redondance de l'un sur l'autre. La pollution fait partie de la même réalité. Oui, il y a tout un traité écologique que l'on utilise dans les communautés juives, à partir de la Genèse, une réflexion sur la Genèse, qu'est-ce que c'est que l'écologie? L'écologie, c'est donner aux plantes, aux arbres, aux animaux, toute leur capacité d'être. Au service de l'homme, mais aussi au service de ces réalités-là. Parce que le service de l'homme peut être aussi rempli de poison. Il y eut une famine dans le pays. Et on ne vous dit pas pourquoi. On ne vous dit pas quel cataclysme est au départ. Il y eut une famine. C'est un fait. Et comme Dieu donne à manger, bah, c'est lui aussi qui fait la famine. Hein. La famine pesait lourdement. Tiens, ma peine est trop lourde à porter, elle pèse lourdement. La famine pèse lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte, en Égypte, donc ça c'est le pays, et, disons pas ennemi d'abord, mais étranger, vraiment étranger et étrange. Il dit à sa femme Sarai. Beaucoup se sont demandé pourquoi. Dès le départ, on vous disait que la femme était stérile. Et il y a aussi une tradition juive qui dit, c'est d'abord pour pouvoir vous montrer que la femme n'est pas avant tout mère, mais qu'elle est avant tout épouse. Parce qu'on pourrait la considérer, et c'est vrai que dans des textes et dans la société, dont parle la Bible, dans cette société, la femme était surtout regardée par sa capacité de fécondité. Mais ici, elle n'en a pas de capacité de fécondité, elle est stérile. Et donc, elle n'est qu'épouse. Et d'abord, il y a une reconnaissance de la beauté. Jusqu'ici, on n'a pas parlé de la beauté. Hein. Et la Bible n'en parle pas si souvent, de beauté. Elle était très belle. Vois-tu, je sais, j'ai l'expérience que tu es une femme belle. Comme si cet homme découvrait soudain la beauté de sa femme au-delà d'une maternité qu'elle ne peut pas lui accorder, en elle-même. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. On va dire aussi que David y a fait œil naïf, il est beau quant aux yeux. La femme est belle. Et les Égyptiens peuvent reconnaître la beauté. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait en face de la beauté? Réflexion, hein? Quand nous voyons quelque chose de beau, dans une exposition, une belle statue, une belle peinture, c'est beau. On s'extasie, non? On en jouit de la beauté. On jouit de lui, c'est un arbre du paradis. Une femme est belle. On en jouit. On dit qu'elle est belle. On vit de sa beauté. Pourquoi faut-il l'apprendre? Tiens, les hommes, les Égyptiens, sont des hommes qui prennent. Ils prennent une femme belle. C'est drôle, hein? On ne prend pas une femme belle. On l'admire. Pourquoi prendre? Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Ils refont l'histoire de Caïn. Est-ce que la femme est une possession? Est-ce qu'elle est un objet? Ou bien est-ce qu'elle est un sujet d'admiration? D'admiration gratuite, bien entendu. Pas d'admiration intéressée. Mais on voit que la question se pose à travers est-ce que la femme est une sœur ou une possession? On ne possède pas une sœur. Une femme, on risque de la posséder. Et on voit que toute cette question-là, et la réflexion juive en fait état également, toute cette réflexion est là, présente dans ce texte. Quand, de fait, jusqu'ici c'était une idée d'Abraham, avait quand même une certaine expérience de ce que pouvait être un peuple autre. Quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers la virent et la vantèrent à Pharaon, ça va être très bien ça, hein? On en parle à Pharaon, on l'admire. Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon, là ça va plus. Celui-ci traita bien Abraham à cause. Dis, je te prie, les officiers de Pharaon la virent, la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Dis, je te prie. Mais est-ce qu'elle l'a dit? Le texte ne le dit pas, hein? Le texte ne dit pas qu'elle a dit qu'elle était sa sœur. Lui l'a fait passer pour la sœur. Mais le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies, et aussitôt sa maison, à propos de Sarah, la femme d'Abraham. Pourquoi les grandes plaies? Mais il n'a rien fait, semble-t-il, puisqu'il a encore quand même gratifié Abraham. Mais il a pris une femme belle. Est-ce qu'on peut prendre une femme belle quand elle ne lui appartient pas? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Alors toute la tradition juive se demande, mais est-ce qu'il l'a véritablement connue? Est-ce qu'il l'a pas connue, etc. Mais enfin, il y a déjà, si vous voulez, ce germe d'étrangeté d'Égypte qui est présente dans le récit.
Il y a quelque chose d'égyptien, finalement, dans cette femme Sarai. D'étrange, d'étranger. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Mais le grenier, le pays, le paradis terrestre de l'Égypte, le voilà de nouveau fermé à Abraham. Prends-la et va-t'en. Et va-t'en, c'est le même, ça c'est le même mot que part, quitte. Vous voyez, il y a dans ce texte, si vous le relisez, hein, au-delà du récit, il y a toutes sortes de questions qui se posent, bon, à partir du texte, à nous évidemment. Que faisons-nous de la femme aujourd'hui? Sœur ou possession? Sœur, c'est de nouveau recevoir, posséder, c'est prendre. Et d'une manière générale, ça nous permet de réfléchir à ce thème de la femme aujourd'hui. D'Égypte, Abraham, avec sa femme. Hein? Ça change, hein? Abraham prit sa femme, Sarai, son neveu, tout l'avoir qu'il avait amassé, et maintenant Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait. On dirait qu'ils sont passés sur le même pied, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la tradition juive dit aussi ceci, hein? Comment tout d'un coup il l'a reconnu? Je sais que tu es belle, comment est-ce qu'il sait? Et il nous raconte que tout d'un coup la Shkina, c'est-à-dire la présence de Dieu, a donné à cette femme un éclat extraordinaire. Et il a découvert pour la première fois en sa femme, hein, que sa beauté était le signe de la présence de Dieu. Et donc cette beauté, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la prendre pour femme. Et il a découvert que sa femme était plus que sa femme, qu'elle était vraiment une sœur. Et il y a, même dans la réflexion juive, il y a des choses intéressantes qui se disent sur ce texte. Et puis le voilà, il était très riche, donc ça c'est tout l'aspect économique, ses campements, le conduire, etc. Il avait du gros et du petit bétail. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant qu'il y a une relation entre frères. On se bagarre, et là, Abraham dit non, 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 pas de bagarre. On dirait qu'il a lu l'histoire de Caïn et Abel. Il sait très bien que la bagarre, ça peut finir par l'extermination de l'un ou de l'autre. En tout cas, il y aurait des morts. Mais pas de morts. Nous sommes frères. Je vous ai signalé, hein, ce terme de frère qui apparaissait entre l'oncle et le neveu. Et même, cette fraternité va très loin, puisqu'il donne la meilleure part, c'est-à-dire la capacité de choisir en premier, il donne la même meilleure part à Lot, qui est son petit-neveu. Et généralement, la meilleure part, on le donne à l'aîné, on la donne à l'aîné, au plus âgé. Donc normalement, c'est lui qui aurait dû choisir. Ou bien dire, on va faire un arrangement, hein, tout ce que je t'ai déjà passé, tout... on va le compter pour autant, etc. Mais non, il ne calcule pas. Il réagit à la manière de Caïn et Abel. Il donne et il donne plus. Il donne le meilleur et il donne plus. Et il ne se réserve pas le meilleur. Et là aussi, quand il a fait cela, il érige un autel au Seigneur. C'est intéressant de voir combien cette présence du Seigneur est là, comme des jalons sur la route. Pour dire, attention, tout ce qu'on fait, c'est dans son esprit, c'est en prenant écoute du Seigneur. Et puis il y a le problème des rois, des puissances, de la terre. Ce qu'on voit un peu dans Babel, bien sûr, et un peu dans Noé, mais c'est surtout Babel ici qui intervient, peut-être les trois fils de Noé aussi, les distinctions des peuples. Il y a des bagarres, 5 rois contre 4. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que fait Moïse et que fait Abraham dans tout cela. Il y a Lot. Lot, son frère. Donc il y a un lien de fraternité. Et ça va lui permettre de risquer sa vie avec vous, avec quelques hommes, 318 personnes, hein, contre ces quatre rois qui s'en vont vers le nord. Il va les poursuivre jusqu'à Damas. Presque invraisemblable. Mais on parle déjà de Damas. On va nous parler d'Éliézer de Damas. On parle déjà de Damas. Enfin, c'est le nord, c'est pas le sud, c'est le nord. Qu'est-ce qui est important? Lot. Lot. C'est mon frère, et donc mon frère, je dois vraiment, puisque c'est mon frère, au lieu de le tuer ou d'accepter qu'il soit emporté, il faut que je le rachète en quelque sorte. Le rachat d'un esclave, d'un otage. Un rescapé vient d'informer Abraham. Abraham apprit que son frère était emmené captif. Il leva ses partisans, les amena et le mena à la poursuite jusqu'à Dan. Était-ce s'immiscer dans les affaires d'autrui? Le problème n'existait pas encore à l'époque. Il reprit tous les biens, et aussi son frère Lot, et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Les biens, les femmes, les gens. Il faut célébrer cela. Et on célèbre cela, non pas seulement en bâtissant un nouvel autel, mais on célèbre cela en demandant aux païens, à un prêtre païen, c'est-à-dire à tout ce qu'il y a de croyant en Dieu, tout ce qu'il y a de fidèle déjà dans les païens, en lui demandant de venir rendre grâce, de venir bénir. La bénédiction de Dieu se prononce par un prêtre païen. Je lève les mains, la main devant le Seigneur, le Dieu très haut qui créa ciel et terre, ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Dieu bénit gratuitement. Abraham a fait ce rachat de Lot gratuitement. Il ne prend rien pour lui. Désintéressement absolu. Rien pour moi. Seulement ce que mes serviteurs ont mangé de la part des hommes qui sont venus avec moi, Eshkol, Aner et Mamré, eux prendront leur part. Moi, non. Je n'ai rien fait. C'est cette gratuité qui est mise en évidence par Abraham. Dis, je te prie. Et il demande justement une pareille gratuité, semble-t-il, à sa femme. Une confiance extraordinaire qu'il lui fait. Et vous allez voir qu'elle va lui rendre la pareille. Après ces événements, la parole fut adressée à Abraham. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Ta récompense, ce n'est pas du butin. Ta récompense, c'est moi. C'est-à-dire que tu es entré par ta magnanimité, par ta manière de vivre cette gratuité, tu es entré, tu as déjà commencé à faire le chemin d'une alliance. Tu es en train de m'imiter, en quelque sorte. Pardon? Merci, hein? Et Abraham dit, mais il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est la vie. La bénédiction d'Abraham, c'est très bien, mais c'est la vie qui est importante. Tu ne m'as pas donné de descendants. Juste ce que je voudrais bien là. Hein. Et un de des gens de ma maison, peut-être bien que c'est pour cela qu'il a, pour avoir un héritier, qu'il a adopté son serviteur, Éliézer de Damas, qui est encore un étranger. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, c'est pas celui-là qui sera ton héritier. mais bien quelqu'un issu de ton sang. Donc c'est ta vie. Ton héritier fait partie de ta vie. Donc il lie de nouveau les deux choses, le territoire, l'espace, à la descendance, au temps. Et c'est l'universalité qui éclate avec les étoiles du ciel qu'on ne peut dénombrer. Et il lui dit, je suis le Seigneur. C'est drôle, hein? Dieu ne révélera son nom qu'à Moïse. Au buisson ardent, chapitre 3 de l'Exode. Et on anticipe ici, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Là, vous connaissez le refrain, hein? Ça revient toujours cela. Je suis le Seigneur ton Dieu. Eh bien, c'est déjà présent ici. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. À quoi saurais-je que je le posséderais? Donc il a déjà compris que ce n'est pas lui qui le possédera. Je le posséderai, mais je ne le possède pas. Et alors, Dieu lui répond d'une manière très étrange, il lui répond en lui disant, prépare tout pour un rituel d'alliance. Il ne lui dit pas, d'abord, on va faire alliance. Dieu n'agit pas de cette manière-là. Il ne nous dit pas d'abord quel est son projet. Il nous le laisse découvrir. Il nous donne juste ce qu'il faut. Et les choses se passent dans la nuit. Nuit importante. Le sommeil qui tombe sur Abraham, comme sur Adam, cet effroi intérieur, c'est pas une peur de Dieu, c'est la découverte de sa transcendance tout d'un coup dans notre vie. Il nous arrive parfois de découvrir l'espace d'un éclair, de découvrir une présence indicible, et qui, dans un certain sens, fait peur. C'est tellement grand, et c'est très fugace. Nous aimerions bien que ça dure, et en même temps, nous redoutons que cela dure. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est trop grand. Mais de temps en temps, en un éclair, il y a sa présence qui nous saisit. Sache bien que tes descendants seront des étrangers. Et oui, cette peur d'Abraham, on l'explique. À la fois, tout ce que tu portes toi-même comme semence de vie, tes enfants, ta descendance, deviendra esclave. On les opprimera pendant 400 ans. L'acceptation de la réalité. Il y a encore des gens qui veulent être les dominateurs des autres. Et on dirait que Dieu entérine tout cela. Il accepte tout cela. Tellement il a confiance en l'homme. Faut-il agir? Faut-il intervenir? Intervention, non-intervention? Pour toi? Tu t'en iras en paix. Voilà la première fois que le terme de paix intervient dans l'histoire d'Abraham. Tu t'en iras en paix auprès de tes pères. Tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. Cette paix qui est le signe de la confiance en Dieu à travers toutes les vicissitudes, tous les massacres humains. C'est curieux cette vision, hein? Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son. Si vous intervenez trop vite, il y a un processus qui va reprendre de plus belle. Et regardez souvent entre les ethnies ou entre les peuples de langues différentes, comme chez nous. Quand vous coupez trop vite les choses, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout d'elles-mêmes. Ou on vous coupe une colère, elle va venir, quelques minutes plus tard. Parce qu'on dirait qu'il faut aller jusqu'au bout d'un mouvement intérieur. C'est très psychologique. Et quand le soleil fut couché, c'est-à-dire la nuit, et que les ténèbres s'étendaient, voilà que Dieu se fait voir, dans la nuit. Mais nous voudrions souvent que ce soit avant la nuit, et nous l'empêchons de venir. Ainsi qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, ou aujourd'hui, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays. Et donc Dieu lit les deux choses. Ta postérité, je donne ce pays. Voilà. Nous sommes arrivés là. Et nous commençons à découvrir quelque peu un chemin de Dieu à travers l'homme. Oui. Dans le texte.
C'est bien ce que j'attendais comme réponse, et alors c'est proposé la suivante.
Chacun est unique, donc il a son mystère.
Pour vous poser celle-ci, est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique qui se pose vis-à-vis de Dieu quand Dieu nous connaît? Est-ce qu'il n'y a pas comme une gêne, et ce n'en fait pas une difficulté pour un monde laïque de refuser un Dieu qui vous connaît, qui connaît tout le monde,
bien sûr,
et qui est perçu comme quelqu'un qui entre son jardin?
Mais il y a un psaume qui répond à ça, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais oui. ». Ça commence par
« Tu me sondes, tu me connais, connais-moi, Seigneur », à la fin du psaume. «
Conduis-moi sur le chemin ».«
Conduis-moi sur le chemin d'éternité ». Il y a tout un processus. Toute une découverte. Ah, c'est une difficulté. Heureusement qu'il y a une difficulté. S'il n'y avait pas de difficulté, on ne pourrait pas la dépasser. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est que nous heurtons à la limite humaine. Alors, comment Dieu fait-il pour nous mener en dehors de notre limite? C'est toujours par un acte d'ouverture à lui. Alors, le problème que tu poses là, hein, c'est le problème de la psychologie, face à un Dieu qui est à la fois très grand et qui nous dépasse, et qui nous connaît tout, et qui cependant est intérieur à nous et qui vit tout avec nous. C'est exactement, hein, et ça c'est typique de la tradition juive, et qui débouche et qui s'accomplit dans la tradition chrétienne, où Dieu est à la fois le transcendant et l'immanent. Et déjà, on voit cette présence ici dans Abraham. Car tout ce qui se joue là, ça se joue comme si Dieu était à l'extérieur d'Abraham. Mais tout ça, évidemment, c'est à l'intérieur de sa vie. C'est toute une découverte de Dieu. Alors, il faut d'abord que ça heurte. Il ne faut pas avoir peur de heurter. Et donc, essayer de traiter la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la psychologie est tout? Et la réalité psychologique est signe de quoi? La psychologie détermine aussi les limites. Hein? Et d'ailleurs, une bonne psychothérapie aboutit normalement à la reconnaissance exactement à ce qu'Abraham fait, parce qu'on peut faire une lecture psychanalytique d'un texte comme celui-ci aussi. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, il parcourt le pays. De long en large, d'est en ouest, hein, il va regarder le pays. Et au fond, une thérapie, c'est la reconnaissance de mon pays. Mon pays, mon histoire, tout ce que j'ai vécu, avec les limites, avec les impuissances, avec des inimitiés, celles que je peux accepter, celles que je ne peux pas accepter, une prise en compte de tout mon patrimoine. C'est important de se rendre compte de cela. Et de se rendre compte qu'il y a aussi des choses qui sont temporairement impossibles à dépasser. Je dis temporairement. et que peut-être c'est à la troisième ou la quatrième génération qu'on les dépassera. Vous savez, dans les familles, il y a souvent des déchirures, des ruptures, et il y a des gens qui s'acharnent pour briser ces déchirures, ou essayer de raccommoder tout, et qui font parfois pis que bien. Pour la bonne raison qu'il faut du temps pour que ces choses se passent. Vous savez, je ne sais pas si vous arrivez, vous autres, à pardonner à quelqu'un qui vous a fait vraiment du tort, et vous pouvez dire « je pardonne ». Mais il faut combien d'années pour assumer ce pardon? Parfois toute une vie. Mais nous voyons cela, hein, comme si ben oui, le temps presse, donc il faut tout réaliser maintenant. D'une façon très humaine de voir les choses. La Bible nous enseigne précisément que les choses sont à la mesure de Dieu. Mais il y a des tas de massacres dans le monde. Il y a des tas de massacres. Comment Dieu souffre-t-il ces tas de massacres? Mais parce qu'il aime l'homme. Parce qu'il souffre de la violence de l'homme. Il ne peut l'accepter que parce qu'il en souffre. C'est difficile d'accepter un Dieu comme ça, qui est à la fois domine tout, il crée tout, il façonne chacun, et il est extrêmement vulnérable, très haut et très bas. C'est une image qui n'est pas tout à fait à notre mesure, heureusement. Et alors, vous voyez, ce qui est dit ici, c'est que Dieu fait alliance, mais il s'engage, c'est tout. Il ne demande pas que l'homme s'engage en retour, il s'engage. Il s'engage à donner, à combler les deux désirs d'Abraham, c'est-à-dire une descendance, un fils et un pays. Il s'engage à lui donner sa stature, il s'engage à lui donner son sens, son existence, sa réalité. Au milieu d'autres, il y a des Cananéens dans le pays. S'arrêter ici. Je vois que
selon ton bon plaisir.
Pierre regarde, pense maintenant dans le chapitre 16e, ça risque de durer. On en arrive à un changement de rôle. Ça commence par, dans le texte hébreu, Sarai, la femme d'Abraham. Puisqu'ici c'était toujours Abraham, hein, le Seigneur dit à Abraham. Ici, on commence Sarai, la femme d'Abraham. Donc c'est elle qui va être mise maintenant en évidence dans ce chapitre 16. Je vous signalerai qu'au chapitre 12, verset 17, lors de l'histoire de la sœur épouse, là, hein, chez le Pharaon, la traduction, en tout cas dans la Bible de Jérusalem, je ne sais pas dans la Tob, mais la traduction n'est pas tout à fait correcte. Ici, on dit, le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies, et aussi sa maison, à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Vous voyez comment on la désigne, hein, Sarai, la femme d'Abraham. À propos de, en hébreu, c'est davar, et davar signifie l'événement, à cause de l'événement, ou à cause de l'affaire de Sarai. On peut traduire évidemment à propos de, d'une façon assez rapide, mais ça peut être aussi à cause de la parole de Sarai. Est-ce qu'elle avait dit quelque chose? Peut-être bien qu'elle a révélé, mais on ne nous dit pas laquelle. Tandis qu'ici, c'est elle qui prend l'initiative. La femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant. Vous direz, on le sait. Oui, d'accord. Mais s'il le souligne, c'est qu'il faut encore le savoir mieux. Mais elle elle avait une servante égyptienne. Ah, c'est une servante d'elle, c'est pas servante d'Abraham, c'est la sienne. Elle est égyptienne, figurez-vous. Donc il y a encore de l'étrangeté. L'Égypte signifiant d'abord l'étranger, l'autre. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Agar. C'est drôle ce terme de Agar. Parce que pour une oreille hébraïque, ça signifie l'étrangère, justement. L'immigrant. C'est l'immigré. Gare, guerre, c'est l'étranger qui vit dans le territoire. Donc, vraiment, elle est doublement étrangère, semble-t-il. Égyptienne, et nommée par son nom Hagar. Il y a un H en hébreu. Et Sarai dit à Abraham, ah voyez, elle prend l'initiative, elle dit à Abraham, voilà qu'elle s'adresse vraiment à Abraham, « Vois, je te prie, tiens, voilà le « je te prie » qui revient. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Obtiendrai-je par elle des enfants. Donc c'est la mère porteuse, quoi. Et c'est vrai, c'était une... Mais oui, c'était une institution qui existait à l'époque. Quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, et son mari prenait une servante ou quelqu'un de proche pour enfanter des enfants pour la maîtresse. Donc c'est pour ça. Mais qu'on n'a rien découvert aujourd'hui. Je t'en prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante, va donc vers ma servante. Alors, vous voyez, j'ai mis solution humaine. Il y a un problème, elle n'a pas d'enfant. Et alors, une solution humaine, comme Abraham avait trouvé aussi une solution humaine de son côté, on va adopter le serviteur. Le serviteur, Eliezer de Damas. Le serviteur d'Abraham. On adopte le serviteur d'Abraham. Eh bien, elle fait pareil. Vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. On ne sait jamais, on peut risquer. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Oui, il obéit tout à fait. Sarai avait obéi à Abraham, hein? Abraham a obéi à Sarai. C'est intéressant de voir comment le texte est raconté. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, il avait déjà 75 ans au début, maintenant il en a 85, et sa femme en a 75, ça devient un peu extraordinaire de fait. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari. On voit bien que c'est elle qui fait ça. Donc, c'est bien ma servante, et c'est pour avoir, moi, un enfant de la servante. Et l'enfant était, bien sûr, à celle qui avait commandité, suivant l'institution. Celui-ci, donc, il fait ce qu'on lui a demandé, Abraham, celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Ah. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux.
Évidemment.
Elle devient la femme. Alors Sarai dit à Abraham, ne s'adresse pas d'abord à la servante, elle s'adresse à Abraham, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Tiens, vous voyez, toujours le jeu des responsabilités qu'on se rejette, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. À ses yeux. À ses yeux. C'est dans la vue. Que le Seigneur juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, eh bien, ta servante est entre tes mains. Elle n'est pas entre mes bras, elle est entre tes mains. Tu es la maîtresse. Fais-lui comme il te semblera bon. Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. Et vous avez de nouveau, c'est la jalousie qui est en route. Alors, ne jugeons pas de la moralité. C'est pas du tout pour cela que le texte est raconté. Il nous est raconté pour que nous puissions découvrir tout le jeu des personnes, donc dans le jeu du texte lui-même. Donc c'est une solution humaine qui est entreprise là, comme Abraham avait pris une solution humaine en adoptant Eliezer. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Elle n'est plus sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Elle se prend pour la femme d'Abraham. J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Elle s'est vue, je ne compte plus à ses yeux. Il y a une question de regard qui est importante dans ce texte. Que le Seigneur juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, eh bien, ta servante est entre tes mains. Donc, elle l'a donné à Abraham pour qu'elle ait un enfant pour elle, et maintenant, elle en rend responsable Abraham. C'est souvent ce que nous faisons, hein. Nous voulons et nous ne voulons pas. Nous voulons, mais pas de la manière dont ça se réalise. C'est tellement fréquent. Abraham dit, écoute, c'est toi, hein. C'est toi qui as pris l'initiative, et bien ta servante est entre tes mains. Dans un certain sens, il y a aussi une confiance qu'il lui fait. L'ange du Seigneur la rencontra. Ah, l'ange du Seigneur qui s'amène. Quand on dit l'ange du Seigneur, c'est une manière de dire Dieu, hein, lui-même. L'ange, la gloire, la face, tout ça c'est Dieu lui-même, mais Dieu à travers des événements, Dieu à travers un messager, quand nous disons ange, c'est messager. Donc c'est toujours à travers des médiations humaines, ou des médiations matérielles, historiques. Un Dieu qui arrive. Donc Dieu prend à cœur la cause des hommes. Voilà la servante qui est maltraitée, qui est opprimée, le terme est très fort, la maltraita tellement, l'opprima tellement, que l'autre s'enfuit de devant elle. Et c'est juste le moment que Dieu choisit pour la rencontrer. C'est-à-dire la pauvreté, l'oppression. L'ange du Seigneur la rencontra près d'une certaine source au désert. Je ne vous dis pas laquelle, vous pouvez aller chercher. La source qui est sur le chemin de Chour. Il dit Agar, servante de Sarai. Tiens, vous connaissez son nom, Agar. Sarai, la femme d'Abraham. Le texte avait commencé comme cela. Sarai, la femme d'Abraham. Ici, Agar, servante de Sarai. Il reconnaît quand même le lien qui existe entre... Il ne faut pas le nier. C'était le lien. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a envoyé Agar vers son mari. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu?
Elle marche trop, celle-là.
Pardon?
Elle marche trop.
D'où viens-tu? Et où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sens de ta vie? Pardon ?
D'Égypte.
Ben oui.
Où voulez-vous qu'elle aille ? Elle est égyptienne.
Je retourne. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit : Je fuis de devant ma maîtresse Sarai. Voilà d'où je viens. Je fuis devant ma maîtresse Sarai. Elle n'a pas dit où elle allait. Elle dit d'où elle vient. L'ange du Seigneur lui dit, retourne. Chez ta maîtresse et sois-lui soumise. Accepte l'oppression qui t'est faite. Étrange, hein, cette solution du Seigneur. Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. Il y a parfois des soumissions à accepter. Mais c'est vrai qu'elle est servante. Hein. Si on regarde la réalité telle qu'elle est, sa maîtresse avait ce droit. Et c'était accepté dans les mœurs de l'époque. Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. Et sois-lui soumise. L'ange du Seigneur lui dit, tiens, je multiplierai beaucoup ta descendance. C'est exactement la même promesse qui a été faite à Abraham. Je multiplierai beaucoup ta descendance. Mais cette fois-ci, c'est fait à la femme. Ça a été fait à Abraham, et on dirait que par le fait qu'elle s'est unie à Abraham, eh bien, ça retombe aussi sur elle, cette bénédiction. Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. L'ange du Seigneur lui dit, c'est curieux hein, cette répétition, l'ange du Seigneur la rencontra, l'ange du Seigneur lui dit, l'ange de Yahvé lui dit, l'ange du Seigneur, de nouveau de Yahvé lui dit. Et c'est très curieux cette manière dont il s'adresse à elle. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Et nous arrivons au stéréotype de l'annonce de naissance, que nous retrouverons jusque dans l'Annonciation. Hein ? Chaque fois que vous avez une annonce de naissance, par exemple l'Emmanuel aussi, hein, voici la jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est toujours les mêmes, hein, le même petit schéma qui vous dit, attention, nous sommes devant une annonciation.
C'est le même faire part.
Exactement, le même faire part.